Sauve ton serviteur qui se confie en toi. C'est toi, Seigneur, Seigneur, qui nous pardonne. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. C'est toi, Seigneur, Seigneur, qui nous aime. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Amis très chers, aimés, respectés, les gros des gros chefs, les gros calacas de la grande association de l'amour au PH, association du bienfaisant sa caractère spirituel, association dont le président fondateur, Papa Guy, mille fois, c'est quoi beau, mille soleils, mille à la vaque écolo, moutoua, quoi, l'homme d'équipe aussi, va salabale, me batte à la balle, mon gars, bio, vous dis bio, recevez mes salutations les meilleures, mes salutations cordiales, mes vives salutations, mes salutations plus distinguées, mes salutations fraternelles, mes papas, mes mamans, mes jeunes et vieux enfants du monde entier. Que l'Éternel nous bénisse tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 30 juin 2017. Il est 22h04, heure de Paris. Nous allons continuer notre thème. Relatif à l'Antéchrist, à l'adversaire, vous voyez. Et aujourd'hui, nous allons, parler des premiers versets, voyez, du chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu que nous avons commencé la dernière fois. Car n'oubliez pas que nous avons parlé de 5 grandes parties, à savoir la destruction du temple, le commencement des douleurs, la grande tribulation de Jérusalem, l'avènement du Fils de l'homme, et lorsque nous parlerons de l'avènement du Fils de l'homme, nous allons nous appuyer, beaucoup plus parler des signes cosmiques, n'est-ce pas ? Qui précéderont et qui suivront, voyez, l'avènement du Christ. Mais avant tout, nous allons demander à notre Dieu et Père, au plus haut des cieux, de nous orienter, de nous diriger, de nous canaliser, de nous soutenir tout au long de cette prédication par son Esprit. Que l'Éternel tourne sa face vers nous, nous accorde la paix du corps, de l'âme et de l'esprit, la rémission de nos péchés et la vie éternelle par le Christ notre Seigneur et Sauveur. Prions. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. C'est toi, Seigneur, Seigneur, qui nous exauce. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. C'est toi, Seigneur, Seigneur, qui nous délivre. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Ô Seigneur. Là où tu le veux, la vie est prolongée, le malade se rétablit, le péché s'efface. Je t'invoque, ô Seigneur, afin que tu me regardes à mon tour. Accueille mon espoir, prononce ma délivrance, afin que mon corps affligé de mort reprenne la santé, que mon cœur meurtri par des épreuves et des chagrins se gonfle d'un nouveau rayonnement. Je suis attentif à tes actes et à tes commandements. Ô mon Dieu, je t'invoque avec amour. Pardonne mes erreurs et mes fautes. Exauce ma prière. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. C'est toi, Seigneur, Seigneur, qui nous protège. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. C'est toi, Seigneur, Seigneur, qui es fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Oh oui, notre Dieu, tu es fidèle. C'est toi qui es fidèle. Car tu as accepté notre souffrance. Tu as porté notre fardeau. Oui, lourde était la croix. Oui, oh Dieu. Pénible était la croix. Mais tu l'as accepté. Tu n'as pas refusé de porter la croix jusqu'à ce que la croix soit le signe de notre salut, le symbole même, oui, de notre salut. Tui data din colossi, dia tu fuira Jesu, vadaria autonasa, mambime naeto. Colossi, colossi, dia tu fuira Jesu, vadaria autonasa. Allons-y voir la croix sur laquelle notre Seigneur est mort. Oui, nous avons fait du mal à notre Dieu. Mais la croix est devenue le symbole du salut, le signe du salut. Oui, Papa Guy mille fois, sais-tu quoi, bon, le dit dans sa chanson, que tous ceux qui regarderont avec foi la croix sur laquelle notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ a été crucifié, ses péchés lui sont remis. Juste voir la croix, car la croix, elle est devenue vivante, elle donne la vie. Oh, c'est cette croix que tu as portée, Seigneur. Tu as été fidèle. Tu l'as portée jusqu'au mont du Golgotha. Oui, afin de sauver l'humanité tout entière. Va culus Christo, ou à sa fauti qui s'entoue à Satananade. Sur la croix, le Christ a écrasé la tête du serpent. Et Wanzio Nangolo, et lui a ravi toute la puissance. Oui, tout revient à Dieu. Tout revient à Dieu. Et tout lui sera remis. Même la mort remettra ce qu'elle possède. La mer aussi, le séjour des morts aussi. Nous avons des comptes à rendre à celui qui nous a tout donné et créé. Tous avons des comptes à lui rendre. Ô Dieu notre roi, ô Dieu, ne nous laisse pas dans cette situation. Oui, où nous te connaissons point, nous ne te connaissons plus, où nous sommes écrasés sous le poids de nos souffrances, de nos maux et de nos péchés multiples, car nous sommes dans une communauté qui pêche à longueur de journée. Nous sommes au milieu du monde qui foule aux pieds les lois de l'Éternel. Ô Dieu notre Père, ne regarde point la multitude infinie de nos péchés, puisque tu es toujours compatient pour le pécheur qui se repent. Nous venons vers toi te demander pardon. Nous sommes des pécheurs indignes et remplis d'iniquité. Mais nous venons vers toi, ô Dieu, pour te dire Abba, Père, Tata dieto, se dieto, a to lago. Aie pitié de nous et pardonne-nous. Nous prenons l'engagement maintenant de te servir, toi, notre seul vrai Dieu, de propager ta bonne nouvelle dans le monde entier afin de sauver les âmes souffrantes, d'être fidèle à toi. Merci, ô Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. C'est toi, Seigneur, Seigneur, qui es vérité. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. C'est toi, Seigneur, Seigneur, qui nous console. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Lisons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24. Comme Jésus sortait du temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, vous verrez tout cela, n'est-ce pas? Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. Et restera excusez-moi, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples approchèrent de lui en particulier et demandèrent, « Dis-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge ?» Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse. Oh, excusez-moi, j'ai du mal à lire, mes bien-aimés, excusez-moi. Il fait un peu sombre là où je suis. Donc, j'ai du mal à voir. Donc, je vais m'approcher un peu plus de la lumière. Car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront c'est le Christ et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Voyez, ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se détestera, en effet, nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Bon, on va s'arrêter là parce que j'ai du mal à lire. J'ai pas assez de lumière. Vous voyez ? Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je vais commenter ceci. Vous voyez? Et la prochaine fois, nous allons poursuivre, n'est-ce pas? Donc ici, vous voyez ce qui est important. Hein? Ce que nous pouvons dire selon Guy Émile Le Foy, c'était quoi? Bon, car il s'agit de la prédication selon Guy Émile Le Foy, c'était quoi? Bon, hein? Excusez-moi encore, mes bien-aimés, car j'ai eu du mal à lire le passage. Parce que vous voyez, j'ai pas assez de lumière et il fait très tard là où je fais la prédication là. Et la lumière du jour, n'est-ce pas, s'en va. Et le peu de lumière que j'ai ne me permet pas de lire. Vous voyez? Eh bien, c'est les circonstances. Je dois vous faire la prédication deux fois dans des situations un peu spéciales, difficiles deux fois. Mais c'est l'apostolat, vous voyez? Bien, vous voyez ici, le Christ, il sort du temple. Vous voyez, comprenant cette parole-là, vous voyez, donc, je vais beaucoup plus aujourd'hui rester, hein, c'est-à-dire faire comprendre à mes bien-aimés, vous voyez, le mystère caché de la parole. Parce que c'est la parole de Dieu, ça, vous voyez, c'est la parole de Dieu. Et comme je disais la dernière fois, il n'y a que Dieu lui-même qui a les clés de la compréhension de sa parole. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut vous parler de sa parole. Parce que c'est sa parole. C'est la parole qui sort de sa bouche. Et cette parole-là fait partie de lui. Et cette parole-là, c'est lui-même, vous voyez. Donc c'est vraiment difficile à un homme de Satan mais de parler de la parole de Dieu. C'est une abomination, excusez-moi. Hein? Les grands satanistes, puisqu'on parle d'eux dans la suite du passage, qui ont maîtrisé, je veux dire, les passages bibliques, n'est-ce pas? Ils les ont étudiés. Mais ils ont oublié une chose, c'est que c'est la parole de Dieu. C'est quand même la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu est saint. Mais que dirons-nous d'eux qui parlent de cette parole? Sont-ils saints? Sont-ils saints? Voyez-vous que non. Alors c'est quelle parole qui sort de leur bouche? Posez-vous cette question. Donc il y a parole et parole ici. Vous voyez? Soit elle est comprise selon l'homme, parce que ce sont les lettres. Soit elle est comprise selon l'esprit. Et c'est ça la prédication selon Guillaume Lefroy de Tourabeau. C'est que c'est l'esprit qui nous anime. Et c'est l'esprit qui parle aux églises. C'est l'esprit qui parle à son peuple de sa parole. Et nous ne sommes que des instruments. Qui laissant agir l'Esprit de Dieu. Voyez-vous ici, quoique nous avons passé de lumière pour lire la parole de Dieu, nous l'avons prononcée à la manière des hommes. Nous avons lu les mots et les lettres. Maintenant, laissons la place à l'Esprit pour nous en parler selon lui, pour nous dévoiler le mystère caché, ce qu'il voulait nous dire, par cette parole grandiose ici. Voyez-vous ici, c'est le Christ qui sort du temple. Je vais encore relire, n'est-ce pas, si vous me permettez. Maintenant que je suis un peu plus proche d'une source de lumière, excusez-moi, mes bien-aimés, que je puisse répéter. Hein? Alors, je vais relire, n'est-ce pas? Comme Jésus sortait du temple, et s'en allait, Ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit: Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jetée bas. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et demandèrent: Dis-nous, quand cela aura lieu et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge? Voyez-vous ici le début et la fin, l'avènement? La fin de l'âge, le signe de ton avènement. Ça, c'est la fin et le début de la parole. C'est qu'il sort du temple. Il y a temple et temple. C'est qui le véritable temple? Lorsque les enfants d'Israël ont construit le temple, c'était pour abriter qui? Mais Dieu. C'était la demeure de Dieu au milieu de lui. La demeure de Dieu au milieu des hommes, c'est le temple. Et le temple était vivant parce qu'il avait le souffle de Dieu. Mais oh, le peuple d'Israël a oublié que le temple en personne, le temple personnifié, était au milieu d'eux. C'est ce Christ. Il venait de sortir du temple. Qu'a-t-il trouvé dans le temple? Qu'a-t-il trouvé dans le temple? A-t-il trouvé une place pour lui dans le temple? Non. Précédemment, qu'est-ce qu'il venait de faire dans le temple? Pourquoi le Christ était tellement fâché contre le comportement des pharisiens, des docteurs de la loi? Des sacrificateurs, etc. Contemporains, c'est-à-dire de son temps, pourquoi était-il en opposition par rapport à eux? Parce que tout simplement, ils avaient exilé Dieu. Ils avaient fait sortir Dieu du temple. Le temple était vide. C'était qu'un monument. Voyez-vous ici, un bâtiment sans vie. Sans souffle, et qui résidait dans le temple. Vous voyez, hein, ici. Mais Satan, personne. Les dieux des étrangers qui avaient envahi le temple et exilé Dieu. Ce Dieu-là sort du temple. C'est un signe. Le Christ, il sort du temple maintenant ici. Vous voyez ici se dessiner quelque chose d'extraordinaire, le message que l'Esprit de Dieu veut nous donner, que Dieu veut nous donner ici. Il sort du temple parce que il n'est pas reçu, il est exilé, et le peuple croit que Dieu, c'est un bâtiment. Dieu, c'est des choses physiques. Dieu, c'est des choses charnelles. Dieu, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on voit, c'est je ne sais pas quoi. Alors que Dieu, c'est tout autre chose que cela. Voyez-vous, il veut leur dire que le temple était une préparation de Dieu au milieu de son peuple. Mais que ce Dieu-là, mais allait venir au milieu d'eux, lui-même, qui est le véritable temple. Devait venir au milieu d'eux. Voyez-vous, il devait sortir du monde pour embrasser des choses beaucoup plus grandioses, mais qui sont spirituelles ici. Il voulait que les enfants d'Israël puissent saisir le côté spirituel de Dieu. C'est-à-dire, comprendre que Dieu est esprit. Vous voyez? Que le temple, C'est Dieu en personne. Que le temple est spirituel, que le temple est céleste, que le temple c'est lui-même, que le temple c'est son corps. Qu'ils sortent du monde, n'est-ce pas? L'attachement qu'ils avaient aux choses du monde, mais faisait qu'ils soient éloignés de celui qui est leur Dieu et celui qui était là au milieu d'eux. Ils ne l'ont pas reçu. Ils sortent maintenant du temple et ils s'en vont. Voilà ici. Je sors. Et je m'en vais. C'est-à-dire que si le peuple d'Israël avait reçu le Christ, sa maison serait le temple. C'est tout à fait normal. Parce que le temple, c'est lui. C'est sa demeure. C'est la demeure de Dieu. Donc, le Fils de l'homme, sa place, sa maison. Mais c'est le temple. Voyez-vous ici. Mais il est exilé. Il sort du temple. Après avoir trouvé quoi dans le temple? Voyez-vous, la Bible nous parle des marchands. Hein, on a renversé les tables, etc. Mais encore plus que ça. Voyez-vous ici. Et encore plus que ça qui se passait dans le temple. Il y avait la présence d'une secte, une contre-église, une secte qui est née véritablement et qui a commencé à gagner le temple, à posséder le temple, à s'asseoir au temple depuis Salomon. Et c'est cette secte-là qui a régné sous les rois d'Israël, après Salomon, Jéroboam, Roboam, etc. Et cette secte-là a grandi, vous voyez, jusqu'à s'asseoir au temple, c'est ça. Et Dieu n'a plus sa place dans le temple. Il est exilé, il sort du temple. Et il va où? Voilà la question. Où va l'Éternel? Où va Jésus? Vous êtes d'accord avec moi que sa place, c'était dans le temple. Mais il y va. Et voyez-vous ici l'attitude des enfants d'Israël, ici, qui sont représentés par les disciples. Ils montrent au Christ, voilà les constructions du nouveau temple. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi aussi que le temple, c'était celui qui était à côté. Le temple vivant, c'est Jésus. Celui qui a demandé à Moïse, etc. Celui qui a demandé au roi David, etc. Oui, aux prophètes, etc., comme vous voulez, hein, à nos aïeux, de lui construire le temple, est là en personne. Le temple, c'était en attendant qu'il vienne, parce que lui, ce véritable temple, c'est lui-même. Il est venu dans sa maison, ils n'ont pas voulu de lui. Oh, mais toi, tu es qui, toi? Voilà qu'il est exilé. Donc voilà ici. Donc le passage commence comme ça, Matthieu 24. Il sort du temple. Donc il est parti, hein? Et les enfants d'Israël ne comprennent pas. Même ceux qui sont proches de lui. Il lui montre la construction du temple. C'est pour ça qu'il répond à ses disciples. Yo, vous voyez ça là? Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout ça va être jeté. Hein? Ça va, c'est la destruction du temple. Tout ça, ça va être détruit. Pourquoi il leur parle comme ça? Parce qu'ils n'ont pas compris. Hein? Parce que le monde n'a pas compris que le véritable temple, le temple vivant, c'est Jésus le Christ. Et il va où se retrancher, où? Alors qu'il devait être dans le temple, mais sur le mont des Oliviers. Voilà un message ici. un mystère caché de l'introduction de ce chapitre. Ici, le Mont des Oliviers, le Temple, le Mont des Oliviers et l'avènement du Seigneur à la fin. Et c'est les disciples qui posent cette question, car ici, ensemble, par rapport à la manière dont c'est exposé ici, où c'est présenté ici, les gens diront que les disciples ont compris. Parce que alors là, ils parlent de l'avènement, le signe de ton avènement. Ah, vrai que c'est lié ici. Mais Jésus-Christ est un temple aussi. Oui, le Christ c'est le temple, donc le signe de son avènement. La fin de l'âge. Vous voyez, les événements de la fin. Donc ils ont compris que le véritable temple devait venir du ciel. Et que ce véritable temple, c'est lui, le Christ. Hein? Bon, vous voyez, hein? Alors, rentrons maintenant dans les vérités divines de l'heure, mes bien-aimés, pour bien comprendre ce passage-là. Oui, ici, mes bien-aimés, le Christ se retranche au Mont des Oliviers. Donc, il trouve sa place là. Donc, c'est un mont, une montagne des Oliviers. Olivier. Ici, vous voyez l'Olivier dans le langage, vous voyez, de Dieu. Prophétique, si vous voulez, hein, langage biblique. L'Olivier, l'olive, vous voyez, hein, l'Olivier, c'est un arbre. Oui, ici... C'est un symbole de la sainteté, hein, de l'onction, l'huile, oui, l'huile, hein, l'huile d'olive, vous voyez, hein, l'olive ici, c'est un arbre sacré, hein. Vous voyez, les deux témoins de l'Apocalypse sont appelés les deux oliviers, vous voyez, donc ce sont les deux oliviers, ici, de l'Apocalypse, ce sont deux serviteurs de Dieu qui sont remplis de son esprit, vous voyez. Donc, quand on parle de l'olivier, des oliviers, eh bien, on parle de l'esprit, on fait allusion à l'esprit. Donc, le mont des oliviers veut dire, hein, mais la montagne où il y a l'esprit de Dieu, la montagne ointa, la montagne sainte, autrement dit. Donc, il s'est retranché à une montagne sainte, le mont des oliviers. C'est un signe, c'est un symbole, vous voyez, ce que le Christ veut montrer à ses disciples, vous voyez, les signes de la fin, vous voyez, qu'il se tiendra sur une montagne, vous voyez, où, au préalable, il y aura son esprit. Donc, il viendra là où son esprit va résider, vous voyez, son esprit résidera sur une montagne, voilà, hein, et c'est sur cette montagne qu'il va se retrancher, il regardera la situation du temple de loin. Mais c'est quoi ce temple-là qui va regarder de loin? Vous voyez? C'est en général l'humanité de la fin, de la quatrième génération, en général. Vous voyez? Et en particulier, les croyants. Il regardera la situation des croyants, de la fin, qu'on appellera des chrétiens, si vous voulez, de la fin. Mais à partir du mont des Oliviers, c'est-à-dire à partir du mont où il y a sa lumière, enfin, son esprit, vous voyez? Mont des Oliviers, c'est ça. Olivier, c'est symbole de l'esprit, ça. L'onction, vous voyez? C'est sur cette montagne qu'on oindra le roi d'Israël, vous voyez? C'est une montagne, la montagne de Sion, Sioni. C'est sur cette montagne-là qu'il va se retrancher avec ses disciples. Vous voyez, nous sommes dans une situation tout à fait de la fin. C'est pour ça que les disciples demandent au Christ. Dis-nous alors, ici dans les termes, il dit, les disciples disent, dis-nous, quand cela aura lieu, quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement? Oui, oui. Hein? Donc on comprend quand il dit pierre sur pierre, ta, 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 va tomber, ta, ta. Quel sera le signe de ton avènement? Donc ici on voit, hein? On voit, on comprend que les disciples, ils ont compris. Hein? Parce que le temple, vous voyez, lorsque le Christ prophétise sur la destruction du temple, eh ben, pour un juif, le commun de mortels, ce n'est pas croyable. Parce que c'est le symbole quand même de Dieu. C'est la maison de Dieu. Ah, voyez-vous ici. Il dit, oh, mais tout ça. Tout ça, ça va tomber, tout ça. Hein? Ça ne restera pas pierre sur pierre. Tout ça, ça va s'écrouler. Bon, bref, vous avez compris pourquoi j'ai dit, hein, un peu plus loin, que les disciples ont compris ce que le Christ voulait dire. Hein? Donc ce temple-là, le véritable temple, c'était le Christ lui-même. Voyez-vous ici. Hein? Il lui demande, mais quel sera le signe de ton avènement? Et pourtant, le Christ, il est là. Hein? Le Christ est là avec eux. Oui ou non? Oui. Est-ce que le Christ est parti? Non. Il est encore là. Pourquoi alors les disciples lui demandent, quel est le signe de son avènement? Donc, il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps. Hein? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, là. Je voulais dire, hein? Alors, mes bien-aimés, vous voyez, nous avons vu premièrement le temple, le mont des Oliviers. C'est là où le Christ leur dit maintenant ce qui va se passer à la fin. Donc, il est retranché sur le mont des Oliviers. Donc, c'est la situation à la fin. Le Christ sera sur une montagne. Pas n'importe laquelle, une montagne trois fois sainte, c'est ça les oliviers, c'est-à-dire une montagne où son esprit viendra, vous voyez, et l'esprit c'est les oliviers. L'Apocalypse nous parle de deux témoins qui sont les deux oliviers ici, les deux oliviers ici, ce sont deux serviteurs ou un et qui sont remplis d'esprit. Le mont des Oliviers veut dire ça. La montagne où il y a la présence de Dieu, comme Dieu est esprit. Donc, il sera sur une montagne qui est pleine de sa lumière, de son esprit. Une montagne sainte, mais trois fois sainte. C'est à partir de cette montagne-là qu'il parlera à ses disciples des événements de la fin, qu'il leur annoncera ce qui va arriver. Et de là, ils regarderont de loin le temple, n'est-ce pas, qui est ici une humanité perdue, une humanité qui va exiler Dieu. C'est ça le message. Et Dieu sortira de cette humanité. Ils diront tous que ce sont des chrétiens, que ce sont des pasteurs, que ce sont des prêtres. Mais c'est faux! Vous voyez-vous qu'on ne trouvera aucune religion qui sera fidèle à Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Oui, on n'en trouvera aucune. Parce que ça va être renversé. Tout le fondement, tout ce que nous avons fait depuis la mort et la résurrection du Christ, l'église que nous avons bâtie, sera détruite à la fin. Voyez-vous ici. Donc à la fin, vous n'allez pas trouver quelque part où on prie réellement Dieu. Parce que Dieu va se retrancher sur sa montagne avec ses disciples. Ils sont peu. 12, n'est-ce pas? On nous dit. Hein? En général. Enfin, en général. 12 apôtres. Oui, hein? 12, quoi. Très peu, ça veut dire. Très peu seulement seront avec lui, retranchés sur sa montagne sainte. Très peu. Et ce sera les proches, vous voyez. Donc, c'est pas n'importe qui sera avec le Christ pendant ces moments-là, mais que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Et ils seront très peu. Mais c'est vrai qu'au début, ils ne comprendront pas. N'est-ce pas? Ils ne comprendront pas ce qui va arriver et ce qui se passe. Mais ils finiront par comprendre puisqu'ils seront en paix. Par par le Christ lui-même. Et oui, ici. Donc, il est sous le mont des Oliviers. Et c'est de là qu'il leur parle de ce qui va arriver. Donc, c'est un grand message à partir du mont des Oliviers. Donc, on aura la même situation à la fin. Donc, il va se retrancher sur une montagne. Une montagne où il y aura pleinement son esprit. Et il ne sera pas visible. Il va s'y retrancher avec les fidèles qui sont avec lui. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire, les frères et sœurs de Luzolo, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Et je veux l'expliquer aux frères et sœurs qui ne sont pas de Luzolo. Je vais leur expliquer cette parole-là. Parce qu'elle concerne Israël. Pas n'importe quel Israël. La vraie. C'est le peuple du Christ dont il est issu. Où il est né. Parce qu'il parle au milieu de ce peuple. Donc les événements de la fin aussi doivent se produire quand le Christ reviendra au milieu de ce peuple-là. Il faut d'abord que le Christ vienne au milieu de ce peuple-là et que ce peuple-là le rejette et qu'il sort de ce peuple. Et quand il sortira de ce peuple-là sera attaqué, sera massacré et ce peuple-là tombera. C'est ça le message, voyez-vous ici. Mais c'est ça le message, mes bien-aimés. C'est ça le message. Donc il faut que le Fils de l'homme se manifeste au milieu du peuple duquel il est issu. Il ne peut pas sortir d'un autre peuple parce qu'il est Dieu. Il est fidèle à ses engagements. Donc il ne peut que sortir du peuple duquel il est issu, il est né. Donc il viendra au milieu d'eux, afin que s'accomplisse ce qu'il dit. Donc il va se retrancher sur une montagne, où il y a pleinement son esprit. Donc ça veut dire autrement que voilà. Hein? Le temple, c'est lui. Là où il est, lui, le Christ, c'est là où il y a le temple. Donc le véritable temple sera sur une montagne et cette montagne sera remplie d'esprit. Et c'est à partir de cette montagne qu'il va s'adresser à l'humanité. Et cette humanité, c'est ça, ce temple qui est à l'extérieur. C'est ce temple dont parlent les disciples. C'est l'humanité. Mais quelle humanité? Croyante d'abord, ceux qui croient. Et ce qui est proche de cette montagne-là, c'est d'abord ça qui est concerné au début, c'est-à-dire sa deuxième nation. Bon, ouvrez les oreilles maintenant, là, mes bien-aimés. C'est de la deuxième nation dont il s'agit. Ce temple-là qu'on voit de loin, hein? C'est celle qu'on appelle, on va appeler la deuxième nation, oui? Bon, je vais être clair, hein? Je ne vais plus parler en parabole. C'est-à-dire que le peuple antique d'Israël, duquel est né le Christ, sera reconstitué à la fin. Un résidu va rester à la fin. Et le Seigneur viendra là, au milieu de ce peuple-là, afin que s'accomplissent les Écritures, puisque ce peuple-là doit encore le rejeter. Vous me comprenez? Mais c'est de ce peuple-là dont il parle. Ici, nous sommes où? En Israël. Donc, ça concerne qui? Qui d'abord, ça concerne cette parole-là? Donc, ça concerne bien un peuple. Il s'adresse bien à un peuple donné. Avant que ça concerne l'humanité tout entière, ça concerne d'abord qui, cette parole? C'est qui a rejeté Dieu? C'est qui l'a connu et qui l'a rejeté? Israël. Donc, cette parole-là s'adresse d'abord à « Mais Israël !» Israël par laquelle sont nées les églises, les religions. Israël, la mère poule, c'est à elle que le Christ s'adresse. Et les disciples qui sont autour de lui, là, ce sont les vrais lousolifiés. Les vrais lousolifiés, c'est-à-dire, ici certainement que mes bien-aimés qui sont pas de l'usolo ne comprennent pas. L'usolo, ça veut dire amour. Amour, c'est le Christ. L'usolifié, ça veut dire celui qui est en Christ, qui l'adore en esprit et en vérité. L'usolifié, ça veut dire serviteur du Christ, qui l'adore en esprit et en vérité. Il est en Christ. L'usolo, ça veut dire amour. L'usolifié, ça veut dire un pratiquant, quoi, de l'amour. C'est-à-dire celui qui marche selon le Seigneur. Celui qui a son amour. Celui qui porte sa lumière. C'est un lousolifié. Donc, ce sont lousolo. Bon, on a créé un terme lousolifié pour montrer tous ceux qui sont en Christ. Donc, ce sont eux, les vrais lousolifiés, qui vont venir du côté du Christ. Et ils seront avec lui sur le mont des Oliviers. Et c'est à eux qu'il montrera les événements de la fin. Donc, eux seuls sauront et verront, mais le menteur. Eux seuls sont capables de comprendre ce qui se passe réellement parce qu'ils ont le Christ avec eux, parce qu'ils ne l'ont pas rejeté, parce qu'ils sont accrochés à lui. Ils viennent aussi du temple, du milieu du temple, avec le Christ. Ils l'ont accompagné. Le Christ a été exilé, mais eux y compris. Et la majorité, ceux qui se diront alors lousolifiés, eh bien, ils vont être ensemble. C'est ceux-là qu'on voit de loin. Ceux qui vont rejeter le Christ. Parmi nous, à l'usolo, on a tous rejeté le Christ. Comment on a rejeté le Christ? On va voir ça, oui. Et donc le Christ regarde de loin. Il montre à ses disciples. Il dit, vous voyez, tout ça là, toutes ces personnes là qui se pavanent là, ces dommages que vous voyez là, les manifestations, leurs retrouvailles que vous voyez là. Là, pour l'instant, ils se pavanent. Mais viendra le temps où ils ne le feront plus. Ils seront dispersés. Et vous ne les verrez plus. Vous voyez? Tout ça, ça va s'arrêter. Parce qu'il n'y a aucun fondement. Rien ne les tient. Parce que je ne suis pas au milieu d'eux. Toutes ces grandes fêtes que vous voyez, tout ce que vous voyez, le cinéma que les gens y font là, ça va s'arrêter, c'est un feu de paille, parce que je ne suis pas dedans, tout ça, ça sera jeté par terre. Tous ces frères et sœurs là que vous voyez là, ils ne sont pas avec moi. Mais ils sont ailleurs, ils m'ont exilé. Et alors, ce qu'ils ont construit là, avec leur fausseté, va tomber. Et ils seront dispersés. On annonce ici la destruction du temple. essayer et qui va être le moteur, l'instigateur qui va pousser à cela, qui détruira ce temple. Et bien, c'est ce qu'on va expliquer après. Vous voyez ? Donc, parce qu'ils m'ont abandonné, alors quelqu'un va venir, l'ennemi, va rentrer au milieu d'eux et les dispersera. Ainsi, vous ne verrez plus les retrouvailles que vous verrez. J'en entendrai plus leurs louanges. Je n'entendrai plus leurs prières. Et je ne les verrai plus me parler avec orgueil et s'élever. On ne les verra plus. Oui. Vous voyez, mes bien-aimés, ça concerne d'abord le peuple de Dieu. Donc, si Dieu est venu au milieu de nous, au Congo-Brazzaville, le 20 mai 1992, c'est ça, c'est pour restaurer quoi? Mais la montagne de Sion, la montagne trois fois sainte, le mont des Oliviers. Pourquoi cela? Parce que le Christ doit revenir. Mais avant que le Christ puisse revenir, il faut que ce qu'il a dit se réalise. Donc il faut qu'on soit dans la même situation que celle d'Israël. Donc il faut que le Christ vienne au milieu de l'humanité. Mais cette fois-ci, il vient en esprit, parce qu'il est esprit. Voilà pourquoi son esprit vient d'abord habiter sur une montagne. Et alors lui viendra avec tous ceux qui nous ont précédés. Et ainsi que ceux qui sont encore ici sur terre, hein? Mais qui sont fidèles à lui, au Christ. Donc ils seront connectés au Christ par cet esprit-là. Depuis le mont Karikari. Olivier, mont Karikari, ça dit Karikari, ça veut dire le centre, le milieu. C'est tout à fait ça. Donc le Christ viendra se mettre au milieu de l'humanité. C'est ça la signification de cette montagne. Karikari, milieu, milieu, katikati. Donc, au milieu de l'humanité. Donc, les événements de la fin ne peuvent pas avoir lieu sans que le Christ vienne se mettre au milieu de l'humanité. Mais il ne viendra pas autrement qu'en esprit d'abord. Donc, sa présence sera là. D'où la montagne, le mont des Oliviers, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, le Christ, en esprit, c'est ce qu'il est exactement. Et c'est pour ça que les disciples demandent le jour de ton avènement, le signe de ton avènement. Alors là, on le verra tel qu'il est parti seulement, hein? À ce moment-là, tel qu'il est parti. C'est comme ça qu'on va le voir venir. Mais il viendra d'abord en esprit, en personne. Vous voyez? Où? Mais à un endroit bien précis. C'est le mont des Oliviers. Et à quoi là? Il y a le temple là-bas. Donc là où le Christ sera, il y aura un temple. Hein? Il y aura un temple. Bon, c'est vrai, vous me direz, hein? Que le temple, c'est le Christ lui-même. Donc il y aura un temple céleste. Oui, c'est le temple de Dieu, hein? Qui est sur le mont. C'est le Christ lui-même. Mais à côté, il y aura un temple. Vous voyez? C'est ce que les hommes vont bâtir de leurs mains. Donc, vous voyez le Zolo là, que vous voyez, hein? Bon, là, je vais maintenant parler clairement. Le Zolo que vous voyez, hein? Où les gens là, je ne sais pas ce qu'ils font là. Regardez bien, bien, analysez bien, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une critique, hein? Mais c'est vous mettre devant le fait accompli, que les Écritures sont en train de s'accomplir. Sur qui d'abord? Mais sur le peuple du Christ. Le peuple. Mais qui appartient au Christ? C'est lequel? Mais c'est le Congo. Hein? C'est Congo. C'est ce peuple-là résiduel. Donc, Il doit venir au milieu de ce peuple-là, mais en esprit. Donc, c'est une vérité, mes bien-aimés. Les pasteurs des églises catholiques, des églises d'éveil, les prêtres, les monseigneurs de l'église catholique, orthodoxe, copte, etc. Voyez-vous, il faut connaître l'origine des choses afin que nous puissions comprendre ce qui va arriver. Sinon, c'est difficile de pouvoir comprendre. Parce que tout se joue sur le mont des Oliviers. Tout se joue sur le mont Kaïkari. Donc, ce sera cet endroit-là qui sera le centre où tout va se jouer là, là, là. Pourquoi ? Parce que le Christ s'y sera en esprit. Et l'ennemi du Christ est esprit. Satan, c'est un esprit. L'adversaire qui vient supplanter le Christ est un esprit. Donc, il voit ce qu'il y a. Ce que les hommes ne voient pas. Donc, la bataille, elle est là. La bataille va se concentrer autour du mont des Oliviers. Mais qu'est-ce qui sera à côté ? Le temple, le vieux temple, que les gens feront un effort de reconstruire. La reconstruction du temple. Le Christ dit, mais tout ce qu'ils sont en train de faire là, hein, tout ça là, là, que vous voyez là, ça va tomber parce que moi je n'y suis pas. Je ne suis pas concerné par ça. Ils m'ont mis de côté. Ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des choses des hommes. Donc, vous allez voir que dès que le maître donnera un signe, le maître ici, vous voyez, c'est notre conducteur spirituel, hein? On appelle maître parce que il a été établi. C'est le Christ qui lui a confié la mission. Vous voyez? Il est le représentant ici de tous les disciples. Vous voyez? Les 12 disciples sont représentés par lui ici. C'est-à-dire, dans le contexte, là, ce qui nous représente, l'humanité, auprès du Christ, c'est cet homme. Et il représente aussi le Christ au milieu de l'humanité. Hein? Donc, c'est le rôle d'un grand disciple ici. Vous voyez? Et c'est le Christ qui l'a établi grand maître. Pourquoi? Parce qu'il est le seul, la seule personne qu'il a désignée, pour représenter tous ses disciples sur la terre et pour le représenter lui sur la terre. Donc en conséquence, c'est lui qui sera le défenseur des âmes. Grand maître, ça veut dire un avocat. Oui, c'est le grand avocat établi par le Christ. Oui, c'est le Christ, c'est sa fonction. C'est le Christ qui est l'avocat. Oui, c'est le Christ qui est l'intercesseur. Oui. C'est le Christ, etc. Mais le Christ, il est Dieu, le Père. Oui. Donc, il ira s'asseoir. Bon, il peut pas être à la fois juge et avocat. Vous me direz, oui, il est Dieu, il peut être. Non, il a établi un humain comme un avocat. Mais c'est pas n'importe quel humain, voyez-vous ici. Mais le premier homme créé, c'est ce qui est normal ici. Le premier homme créé a été établi avocat de l'humanité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est par lui qu'est rentré le péché. C'est le premier pécheur du monde. Et le Christ l'a sauvé en premier. Vous voyez ? La mort et la résurrection du Christ, c'était pour sauver en premier le couple humain. Bon, ça aussi, ça crée des polémiques, alors que ça devait être évident. Comment voulez-vous que le Christ puisse sauver l'humanité sans sauver ce qu'il a établi en premier ? Sans eux, il n'y a pas l'humanité, donc l'humanité est liée au couple originel. Si on rase, on oublie le couple originel, mais il n'y a pas l'humanité, puisque l'humanité est collée. Il y a un lien, il y a un cordon ombilical entre l'humanité et ce couple-là. Un cordon qu'on ne peut pas couper. Sinon, l'humanité est perdue à jamais. L'humanité doit être conduite par ce couple. De l'éternité en éternité. Tel était le but de la création. Tel était le but de la création. Créer un couple humain, afin que ce couple-là soit la tête de l'humanité. Donc l'humanité est liée à ce couple. Spirituellement parlant, il y a un lien qui est là. Et c'est Dieu qui l'a établi. Si Dieu vient pour sauver l'humanité, il ne peut pas sauver l'humanité sans sauver la tête. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, il n'y a pas la création. La création est liée à ça. À Adam et Ève et l'humanité. C'est inséparable. On ne peut pas séparer l'humanité d'Adam et Ève. Donc, s'il y a un avocat et une avocata, bon, il y en a qui ne sont pas... Bon, ça ne les gêne pas qu'on dise, par exemple, que dans l'Église catholique, que Maman Marie est l'avocate. Donc, c'est bien une femme qui est l'avocate. Et Maman Marie dit encore qu'il est la mère de... Mais tous les êtres humains. Quelqu'un a compris quelque chose, là? Je crois que c'est difficile de comprendre, hein? S'il y a une avocate, mais acceptez aussi qu'il y ait un avocat. On sait qui est avocate, c'est dit, c'est connu. On sait que c'est la mère du Christ. Mais on sait aussi, mais qui est l'avocat? S'il y a une avocate, c'est qu'il y a un avocat, c'est qu'il y a un couple. C'est que Dieu ne peut rien faire sans ce couple-là. Sans ce couple-là, il n'y a pas la création, il n'y a rien, il n'y a pas la rédemption, il n'y a pas le salut. Le Christ ne descendrait pas s'il n'y avait pas ce couple-là. Il est descendu pour rétablir le lien entre l'humanité et ce couple-là. Donc, il a d'abord, quand il est mort et ressuscité sur la croix, il est parti d'abord chercher le couple qui était perdu, la tête. Sa mort et sa résurrection réhabilitent d'abord le couple humain d'origine. Et après, l'humanité. Donc on commence d'abord par la tête et on termine par le corps, etc. etc. Comment voulez-vous sauver quelqu'un sans la tête? Non. L'homme, c'est la tête qui pense, qui réfléchit, c'est la tête où il y a le cerveau. Donc, pour sauver l'humanité, il faut d'abord sauver le cerveau, la tête. D'où on sauve d'abord Adam et Ève qui sont sauvés. Et à leur suite, l'humanité. Parce que voyez-vous, encore une fois, mes bien-aimés, quand vous lisez dans la Genèse, là, bon, on parle de la femme, postérité de la femme, même si on a une mauvaise foi. Bon, il y en a qui interprète ça, je ne sais pas comment. Bon, bref, c'était pas le but de la prédication. Je voulais tout simplement dire que Dieu a dit que la femme aura une postérité. C'est quelle femme? Voyez-vous ici, qui est dans le jardin d'Éden, hein? Répondez-moi à cette question. Vous voyez bien qu'il y a trois personnes, là. Il y a le serpent, il y a Adam et Ève. Mais Dieu parle à qui? Mais aux trois. Donc s'il parle de la postérité, c'est que Dieu parle de l'humanité qui va venir. Elle viendra plus tard. Mais là, les concernés, c'est qui et qui? Donc quand il parle de la femme, c'est qui cette femme-là? Ça ne peut pas être une autre femme que celle qui est là. Celle qui est trompée par qui? Par le serpent. C'est pour ça que le serpent est puni. Donc la femme, c'est qui? Mais c'est Ève. Elle aura une postérité. Et comment est-ce que cette postérité fera pour écraser la tête du serpent, puisque le serpent a fait tomber Adam et Ève? Donc ne voyez-vous pas que c'est Dieu lui-même qui va venir naître de cette femme? Mais c'est tellement clair, oui ou non? Bon, maintenant si les gens y comprennent pas, bon, c'est autre chose. Donc la femme par laquelle viendra naître Dieu, ce n'est pas une autre femme que celle qui est dans la Genèse. Donc qui est réhabilité. Donc c'est Dieu qui réhabilitera la femme. Mais l'homme, pourquoi? Parce que le péché est passé par la femme et puis a atteint l'homme. Donc c'est normal qu'on fasse la même chose. Donc si on enlève le péché à la femme qui est celle qui met au monde, donc on a enlevé la malédiction aussi à l'homme et à l'humanité qui sort de son ventre. Bon, bah, bref, hein, c'est peut-être compliqué ce que je raconte. Donc il y a un avocat. Oui, ça peut qu'être Adam, l'avocat de l'humanité. Il n'y a que lui qui peut défendre l'humanité. Devant qui? Mais devant Satan. Et Dieu, Satan sera là pour récupérer les âmes. C'est Satan qui veut prendre la postérité d'Adam. Il veut le récupérer. Satan veut gagner les âmes, que les âmes viennent chez lui. Donc il va les réclamer au jugement. Mais il faut qu'il y ait leur père, le père de l'humanité, là pour défendre ses enfants, pour que ses enfants n'aillent pas vers Satan. Donc il n'y a que le premier qui peut le faire. S'il y a des avocats qui sont établis avec le Christ, parce qu'il est dit aussi que nous aussi nous allons juger, donc nous serons des juges, mais des avocats aussi, parce que nous défendrons aussi. Nous serons des juges et des avocats, puisque le Christ l'est. Hein? Donc nous aussi, nous le sommes. C'est dit dans la Bible, s'il y a un juge, c'est que nous aussi nous allons juger. Si le Christ est avocat, c'est que nous aussi nous le serons. Si nous sommes des avocats, mais celui qui est premier, qui est venu avant nous, mais c'est le grand. Donc si nous sommes des maîtres, nous, des maîtres, mais celui qui est venu avant nous, c'est le grand. C'est le grand parce que tout simplement, mais il est à la tête. Oui, ce qu'on l'appelle grand maître. L'OPH, c'est Jésus. Donc, grand maître de Jésus, établi par Jésus. Bon, ça, c'était une parenthèse pour mes bien-aimés. Parce que les gens vont dire, ah, mais l'OPH, c'est une secte en Inde, je ne sais pas quoi. Hein? Pour salir. C'est en Inde, voilà, ce grand maître-là, c'est un gourou. Pourquoi il s'appelle grand maître? Mais vous, ça vous dérange pas, hein? Ceux qui s'appellent archi-prophètes, hein? Ou archi-bishop. Ça ne dérange personne, hein? Il y en a un qui ont même pris le rang de Dieu, hein? Je sais pas. Saint-père, ou je sais pas quoi, là. Ça ne dérange personne. Mais pourquoi ça vous dérange quand on dit grand maître ou l'OPH? Pourquoi ça vous dérange? Hein? Vous, ça vous dérange pas d'être appelé archibishop, je sais pas. Ça ne dérange personne, hein? Archiprophète ou je sais pas moi. Ça ne dérange personne. Grand prêtre, il y en a, hein? Et pourtant, ce grand prêtre, c'est le titre de Jésus. Même le prêtre, c'est Jésus qui est prêtre. Hein? Pasteur, c'est Jésus qui est pasteur. Mais cela n'empêche pas que on vous appelle pasteur et prêtre. Est-ce que pour autant vous êtes Jésus? Non, voyez-vous. Pourquoi pour vous, ça passe et pour les autres, ça passe pas? Parce qu'on a dit l'OPH. Ah, l'OPH est devenu une secte. Ah, c'est caché là. Ah, les gens commencent à se méfier. Mais non, l'OPH, c'est le Christ. Hein? C'est le Christ. L'OPH, c'est le Christ. Jésus, c'est bien lui, l'OPH, c'est lui, c'est un tétra, bon, excusez-moi, hein? Je ne vais pas rentrer dans les choses qui dépassent notre entendement, hein? Mais je vous redis, mes bien-aimés, l'OPH, c'est Jésus, Christ, hein? Le véritable, le Jésus de Nazareth, celui-là, hein? L'OPH, c'est pas Satan. Non, c'est pas possible. Hein? C'est le Christ en personne. Il a dit, mon nom, vous m'appellerez l'OPH. Oui? OPH. C'est tout. Hein? Mes bien-aimés, c'est tout. C'est lui qui le dit. Il l'a dit. N'est-ce pas? Et encore, on le rejette. Ah, non, non, non. C'est là. Il a dit, appelez-moi l'OPH. Mais c'est tout, on ne discute pas. Pourquoi? Il a dit, parce que c'est mon organisation. Il a dit comme ça. Hein? C'est mon corps. Il dit ces lettres-là. OPH. C'est moi. Si vous invoquez ce nom, c'est moi que vous appelez. Donc il s'est revelé, il a donné son nom. OPH. Alors, nous sommes au garde à vous. Ce que dit grand-mère de l'OPH, c'est un avocat. Donc il est établi avocat. Ça veut dire un avocat. Il est grand parce qu'il est le premier créé. Donc il est plus grand. Et nous aussi, nous serons des avocats derrière lui. Donc s'il y a une cour de justice, lui se tiendra à la place du premier avocat. Et nous serons derrière lui pour défendre qui ? Mais l'humanité. On va défendre nos frères. On va les arracher des mains de Satan. C'est ça notre mission. Donc devant le tribunal de Dieu, on fera tout pour défendre la cause des nôtres. Les nôtres, c'est qui ? Mais les humains ! Afin qu'ils n'aillent pas dans le feu. Donc c'est ça le jugement. Vous voyez ? Et le grand défenseur, le grand avocat établi par... Tous nous sommes établis par le Christ. C'est le Christ qui nous établit. Comme vous vous dites que le Christ vous a établi prêtre, pasteur, oui. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on établisse les autres aussi ? Avocat. Hein ? Après, la sainte dit qu'il est avocat. Ah, mais il n'y a que Jésus qui est avocat. Mais oui. Mais il n'y a que Jésus qui est prêtre. Pourquoi vous êtes prêtre alors ? Êtes-vous Jésus ? Mais pourquoi vous voyez seulement la paille, la poutre la paille dans l'œil des autres, alors que vous-même, vous avez la poutre. C'était une parenthèse, mes bien-aimés, parce que je ne peux pas non plus parler des choses, de l'OPH comme ça, et du grand maître comme ça, sans expliquer à mes bien-aimés. N'est-ce pas ? Que c'est pas savant, c'est pas des choses compliquées, c'est pas un truc de la sorcellerie ou je sais pas du fétichisme ou de l'Inde. J'entends les gens parler. Alors, l'OPH c'est une secte dans l'Inde, mais les gens peuvent prendre le nom OPH comme ils veulent. Hein, pour Satan peut faire du plagiat, oui. Est-ce que Satan il a peur de prendre le nom de Dieu? On l'appelle Satan Tétragrammaton, on l'appelle je ne sais pas quoi. Il a pris les qualificatifs de Dieu. Est-ce que pourtant il est Dieu? Non. Mais alors, y a-t-il une religion où Satan n'est pas rentré, où Satan n'est pas assis? Vous avez, d'ailleurs, vous-même, vous êtes en train de préparer sa venue de Satan, de préparer son trône, hein, pour qu'il vienne s'asseoir. Ça, pour ça, vous ne vous gênez pas, hein, vous le faites. Mais quand il s'agit d'un grand maître de l'OPH, c'est tellement simple, grand-mère de l'OPH. Oh, ah, mais lui, il fait de la magie. Ah, mais lui, Comme les gens, quand je mets les messages catholiques, là, des frères et sœurs de l'Église catholique, apostolique, les gens de l'Usolo Mendex. Ah, il est catholique. Ah, et lui, il est catholique. Mais je vous rappelle encore que le maître a dit qu'il est salutiste, et il mourra salutiste. Hein? Il a bien dit qu'il est salutiste, et il mourra salutiste. Mais alors, où est votre problème? On vous a dit que l'Usolo est une religion? Non, c'est pas une religion, voyez-vous. C'est le corps du Christ. Hein? Mais il y aura une fausse l'Usolo. C'est celle-là qui est là. Hein? C'est une fausse l'Usolo. Parce que va exiler le Christ. Il est sorti du temple. Mais regarde là. Les nouvelles constructions du temple. Ils vont remodeler l'Usolo à leur façon. C'est tout ce qui les intéresse. Hein? Faire des beaux murs en béton. Orner, mettre des drapeaux, des trucs. Tout ça, c'est pas ça. Le Christ dit, mais c'est pas ça. Les gens là ne m'adorent pas. Ils m'ont exilé. Bon, c'est très simple, l'Usolo, hein? Pour comprendre qu'ils ont exilé le Christ, pour comprendre qu'il s'agit de cette fausse l'Usolo. Le temple qu'on voit à part, c'est une fausse l'Usolo qui va se désolidariser du président fondateur. Ils vont faire semblant, là. Ah, Guémil, Guémil, Guémil. Au fond, ils ne sont pas avec lui. Parce que Guy-Émile, c'est le premier disciple du Christ. Il est avec le Christ. Alors que eux, ils vont exiler le Christ. Venir dire en public que le nom de Jésus est caduque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Le nom de Jésus est caduque. Ça veut dire quoi? Il ne faut plus prier au nom de Jésus. Il faut maintenant prier au nom de Guémille Loufoy. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est Dieu alors? Jésus ou Guémille Loufoy? Oh. Alors, pour détourner, n'est-ce pas, l'attention des frères et sœurs, ils vont dire, oui, mais Jésus et Émile, c'est la même chose. Blasphème. Idolâtre. C'est pas la même chose. C'est un sacrilège. C'est un crime contre l'humanité. Ça, c'est un grand crime contre l'humanité. Je répète pour la troisième fois. C'est un grand crime contre l'humanité. Parce que cet homme-là représente l'humanité tout entière. Et on lui a confié la mission de sauver cette humanité tout entière. Qui lui a confié la mission? Le Christ. Donc c'est son Dieu, le Christ, qui lui confie la mission de conduire l'humanité, de sauver l'humanité tout entière. Et vous, vous venez prendre et le remplacer par Jésus le Christ. Et vous faites quoi par cet acte-là? Qu'est-ce que vous faites par cet acte? Vous lui arrachez des mains l'humanité pour la donner à qui? Mais à Satan. Voilà ce que vous avez fait subtilement. Et les frères et sœurs ne comprennent pas. Ils se lancent comme ça, oui. Ils sont là, ah, Guémille, ils ont changé les chansons. Ah, Guémille, ah, Guémille. Partout il y a Jésus, ils ont enlevé Jésus. Mais c'est un secret de Polichinelle. Qui n'a pas vu, qui ne l'a pas vécu et qui ne l'a pas pratiqué? Vous allez vous cacher, vous allez vous voiler la face. C'est une vérité. C'est le Christ qui sort parmi ce temple, qui est cette fausse louzolo. Il voit louzolo de loin. Et alors, le temple va rester désert. Et l'ennemi viendra rentrer dedans et tout fouler par terre, faire tomber tout. Et les frères et sœurs ne comprennent toujours pas. Ils comprendront quand ils verront le temple tomber par terre, pierre sur pierre. Et quand ils seront dispersés, ils n'auront même plus le temps de se retrouver pour faire les dambages, pour faire leur cinéma, là. Et c'est ce jour-là qu'ils vont réfléchir, ça sera trop tard. C'est ce jour-là qu'ils vont chercher le Christ qu'ils ont exilé. Et le Christ dit, c'est à ce moment-là que l'ennemi va rentrer avec les siens. Voyez, le zolo, c'est fait. Hein? Lorsqu'on vous dit de prier au nom de Guémille, de considérer Guémille comme le Dieu créateur de l'univers, tout ça, c'est exiler le Christ. L'objectif, c'est ça. C'est que son peuple l'a rejeté. Donc, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qui va se passer au milieu du peuple, mais de Dieu. Où est né le Christ? Ils vont le rejeter. Israël, Israël, combien de fois vais-je vous protéger? Comme une poule protège ses poussées sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le royaume de Sion sera ôté et donné à un autre peuple qui m'en rendra des fruits. Un autre peuple, voilà pourquoi Dieu va aller vers l'humanité tout entière. Mais il faut d'abord qu'il vienne au milieu des siens et qu'il l'abandonne, qu'il le renie, qu'il le rejette. Et il ira au milieu de l'humanité. C'était la première partie, vous voyez. Vous voyez, on est rentré un peu dans la deuxième partie. Pour vous parler maintenant. Une fois que le temple est tombé par terre, tout ça va tomber. Hein? Mais ce sera un travail de longue haleine, l'ennemi va le faire. Donc il va renverser la vérité. Mais le vrai problème, c'est Jésus qui va être exilé, c'est ce Dieu-là. Donc la vraie louzolo
va être exilée. La frère Luzolo s'en ira et elle sera avec le Christ sous le mont des Oliviers. Et la fausse Luzolo, c'est elle qui va prospérer. Voyez? Donc ils vont construire des nouveaux bâtiments, le temple. Ils vont reconstruire Luzolo à leur manière. Ils vont faire des choses. Vous voyez? C'est impressionnant. Et qui se dit, ah, mais tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est sans fondement. Ça sera écrasé. C'est l'ennemi qui viendra rentrer dedans parce que je n'y suis pas. C'est pas ma volonté. Hein? Et donc vous voyez bien, Luzolo. Donc cela prouve bien que Luzolo, là, que vous voyez, hein? Le peuple là, congolais là, c'est le peuple antique. C'est Israël antique. Il est têtu. Un peuple, la nuque raide. Le peuple qui a toujours fait mal à l'Éternel. Vous voyez? Mais ils le font encore, là. Dieu est venu chez eux. Regardez ce qu'ils font dans la région du Poul, là. Regardez comment les gens y vivent là-bas. Un pays où il y a Dieu, vraiment. C'est pas possible, hein, de voir des choses comme ça. Voilà qu'ils vont répéter la même chose qui est écrite dans la Bible. Le pays où il y a Dieu. La montagne où il y a Dieu. Regardez ces choses qui se passent là-bas. Regardez les œuvres. Ouvrez les yeux, frères et sœurs de Luzolo. Ouvrez maintenant les yeux pour regarder. Ne faites plus la politique de l'autruche, là. On cache la tête et on fait semblant. Non. Regardez maintenant. Regardez bien. Regardez. Et cette affaire-là ne va pas se terminer, cette souffrance-là. Mais tant que le Christ ne va pas revenir dans vos cœurs, dans vos prières, dans vos louanges. Mais quel Christ? Mais le véritable. Le véritable, c'est qui? Mais c'est le Dieu créateur. Vous me direz, ah oui, mais c'est Papa Guémi. Mais non! Non! Dire ça, c'est un crime contre l'humanité, je répète. C'est un crime contre l'humanité. Dire ça, c'est un crime contre l'humanité. Pire des crimes contre l'humanité. Parce que vous empêchez le salut de l'humanité tout entière. L'humanité a besoin d'être conduite par Guy-Émile, le fossé de quoi. Mais de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui chapeaute tout, qui canalise, qui oriente, qui dirige, qui fait tout. Mais lorsque vous prenez ce Dieu, vous dites, ah ben, c'est fini, hein? Allez, toi tu n'es plus notre Dieu Jésus, allez, va-t'en. Nous, notre Dieu, c'est Émile. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous entravez quoi? Mais la mission de Émile Doley. Et donc, vous exposez l'humanité tout entière à Satan. C'est un crime contre l'humanité. Parce que vous freinez la mission d'autrui. Regardez, on a avancé là, avec vos histoires là. On a avancé. Bon, expliquez-moi pourquoi au Congo il y a la guerre. Pourquoi la région du Poul est attaquée comme ça? Expliquez-moi. Donnez-moi une explication valable. Ça n'a pas été prophétisé. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ouvrez les yeux pour regarder. Et qui a permis cette situation qu'on en arrive là? Est-ce que vous voyez la responsabilité de... Et les gens, ils continuent, hein? Comme si de rien n'était là. Guillaume, créateur de l'univers. Mais vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous faire mal vous-même? Vous ne voyez pas que vous êtes en train de détruire le temple de Dieu? Parce que c'est faux, il a dit lui-même, Guillaume. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas l'Esprit Saint. Lorsque Jésus m'a confié la mission. Bon, bref, je répète ça pour que mes frères et sœurs comprennent, vous voyez. Ça fait quand même mal, hein? Excusez-moi, ça fait quand même mal que mes frères et sœurs restent dans ce mensonge, hein? Et on leur dit que c'est pas ça, mais ils continuent, ils persistent dans cette folie. Bon, certainement que vous avez choisi la mort, hein, éternelle, hein? C'est bien, continuez, hein? J'attire seulement l'attention des frères et sœurs qui sont trempés, hein? Revenez à la vérité. C'est pas ça, hein? Et comprenez ce que je viens de dire, oui?
Et vous voyez, au niveau du monde aussi, il y aurait des pasteurs, des faux Christ. Il y en a qui viendra au nom du Christ. Bon, les gens attendent ces moments-là, hein, ces événements-là, alors que c'est devant eux. Vous voyez que le monde satanique a lâché beaucoup de ses disciples. Il les a lâchés dans la nature. Vous voyez, les gens qui viennent vous faire des témoignages, là, qu'ils étaient des grands magiciens chez Satan, c'était des sorciers, ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Ce sont des séducteurs. Ils vous séduisent par leurs témoignages. Mais si vous regardez en réalité, ces hommes-là, qui les a fait sortir, hein? Qui les a fait sortir des ténèbres? Ils te diront, Jésus est venu, il m'a apparu. Ah. Si vous m'avez bien suivi, vous n'allez pas tomber dans la tromperie. Hein? Oui. Beaucoup viendront en mon nom. Donc ce sont des gens qui viendront, qui vont vous parler de Jésus. Des miracles. Qu'ils ont mangé avec Lucifer. Hein? Qu'ils ont voyagé. Ils ont fait des voyages, un voyage astral. Et ils vont vous parler des mondes, je sais pas quoi, là. Et, hein? Des trucs mystiques. Hein? Ils se sont transformés en serpents, des trucs comme ça. Ils vont vous donner des témoignages qui vont vous séduire. Et alors, vous allez les écouter. Quel est leur objectif? Voyez, quand on dit, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que les gens regardent. Hein? Ce que vous regardez, des témoignages que vous regardez, sur YouTube, je sais pas quoi, partout sur Internet, faites attention. Hein? Voyez-vous comment l'ennemi travaille? Vous, les gens, ils attendent les faux pasteurs. Ils disent, ah, ils vont venir demain. Hein? C'est comme... ils attendent la manifestation de l'antéchrist. Alors qu'il se manifeste là, hein? On voit bien qu'il se manifeste. Bon, son apparition, ça c'est une autre affaire. C'est trop dur pour lui pour l'instant. Parce que les gens sauront que c'est lui. Donc il faut qu'il provoque une grande guerre, n'est-ce pas? Pour affaiblir l'humanité. Et là, il pourra apparaître. Mais là, c'est très difficile pour lui d'apparaître. Hein? Mais sinon, il règne déjà. Les 3 ans et demi qu'on lui a donné de règne, il les a déjà entamés. Puisqu'il règne déjà. Hein? Il est là. Et ses faux prophètes sont là parmi nous. Mais c'est tellement maquillé, c'est tellement déguisé, personne ne perçoit leur message. Ben, ils vont venir comme étant des vrais pasteurs. Oui? Ils vont créer des églises avant. Ils vont être partout, des églises d'éveil, des églises de machin. Donc, il va mettre en place ses serviteurs. Oui? Ils viendront avec un évangile de je ne sais pas quoi. Vous aurez des pasteurs partout. Et en particulier en Afrique. Hein? L'Afrique noire, subsaharienne. C'est là où vous comprendrez où il y a l'affaire, là. Donc, ils viendront vous séduire par des témoignages. Et vous allez... Mais il ne vient que pour la mission de leur chef. Et quand leur chef apparaîtra, ils l'applaudiront. Ils seront derrière lui. Ils vont oublier tout ce qu'ils vous ont dit. Alors, vous serez pris dans le piège. Parce qu'ils vont vous conduire vers leur chef. Donc nous y sommes. Les événements de la fin, les faux prophètes, nous y sommes. Ces pasteurs-là sont là. Ils passent à la télé. Ils parlent bien. Ils s'expriment bien. Les gens les appellent les hommes de Dieu. Mais regardez-les par les œuvres. La nuit, ils vont rendre compte à leur chef de ce qu'ils font. Oui. On les appelle des pasteurs. On s'appelle les hommes de Dieu. Mais comment un pasteur peut être franc-maçon? C'est pas possible. Comment un membre confirmé peut être franc-maçon?
ou dans les maisons mystiques. C'est pas possible. Regardez, vous, la majorité de ces gens-là sont dans les maisons mystiques. Ils n'ont pas quitté les maisons mystiques. Ils sont là encore. Ces prêtres-là, ils sont là. Donc, ce sont eux qui sont des gens qui viendront au nom du Christ. Ce sont des faux. Et c'est eux qui vont diriger les églises. C'est eux qui vont être des chefs, n'est-ce pas? Ils vous parleront de Jésus, Jésus, Jésus dans leur bouche. Mais au fond, ils ne servent pas ce Jésus. Donc vous voyez, cette situation qu'on a vue qui concernait Israël va être généralisée. Et sinon, ça va se passer en même temps, hein, selon Dieu. Vous voyez, Dieu peut écourter les choses, faire que tout se passe au même moment. Hein. Vous voyez, parce que tout a commencé en Israël, au milieu des Juifs, les Juifs antiques, et ça a gagné l'humanité tout entière. Mais ça sera la même chose à la fin. Ben, je vous remercie, je m'arrête ici, mes bien-aimés, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi encore, hein. Je ne voulais pas beaucoup parler, mais vous voyez, je ne peux pas faire autrement, hein. Je vous demande pardon, excusez-moi, pardonnez-moi, mais comprenez quand même le message, vous voyez? Comprenez le message et revenez en arrière, vous voyez? Regardez les choses avec les yeux de l'esprit et entendez les choses avec les oreilles de l'esprit afin que nous puissions préparer l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, mais d'abord dans nos cœurs, vous voyez? Dans nos cœurs. Je vous remercie. C'était toujours moi, votre humble serviteur. Père Basse Bassalaba, les Mobata, les Mobata, les Zoukani, les Feux vers le Maudit, les Gaïta Valan, les Zoukani, les Zoukani, les Pétia, Pika, Pédia, les Gémi, le Fois, c'est toi beau. Mote ma pembe, Molangi pembe, Akonzolo kate, Anzolo gakana yete, Tina souka mokiri, Apika pende, Natatana ye, Yemi le Loufois, c'est quoi beau. C'est quoi beau. C'est quoi, beau? La voix et la bouche autorisées de l'organisation PH pendant les moments difficiles. On reconnaît les vrais amis pendant les moments difficiles. Si Baboué et Balinga jamais équipé. Sauvez les babines avant d'avoir qu'il colo, mouto, kouanga. Le fils, chiqué de latif de Papa Guémi, le fois, c'est quoi, beau? Le fils bien-aimé de Papa Guémi, le fois, c'est quoi, beau? Le fils chiqué de latif de Papa Guémi, le fois, c'est quoi, beau? Mikayoulou, mongayoulou. Mbote, 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 mingi. Ayoka, ayoka, ayoka. Mes salutations encore de la fin. Que Dieu vous bénisse tous. Et la prochaine fois, nous allons continuer notre passage. Merci, merci. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Dieu, merci.